sur la radio.
Ah bon alors.
Les rencontres d'Elios, l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'il y a.
Donc je vais d'abord vous faire une présentation un peu générale de la Maison de la Magie. Donc lorsque les visiteurs arrivent dans la maison, après avoir vu les dragons à l'extérieur, puisqu'en fait toutes les 30 minutes, on a des automates, la Maison de la Magie devient un automate géant, on a des dragons qui sortent des fenêtres. Enfin je dis des dragons, en fait c'est un dragon à 6 têtes. Voilà, c'est une hydre. Et donc le visiteur est accueilli par ces dragons. Le visiteur entre ensuite dans la Maison de la Magie, et la première salle qu'il découvre, c'est cette salle, c'est la salle de la Rotonde. Alors, la salle de la Rotonde, elle a pour objectif de raconter l'histoire de la magie au cours d'un son et lumière qui dure 6 minutes, avec de la vidéo, de la projection, des vitrines qui s'animent. Et on vous retrace toute l'histoire de la magie de l'Antiquité jusqu'à Robert Houdin. Robert Houdin, le magicien du 19e siècle, magicien blésois, c'est pour ça que la Maison de la Magie est à Blois. Jean-Eugène Robert Houdin, on va en parler pendant toute la visite, puisqu'en fait il est né à Blois en 1805 et il est mort à Saint-Gervais-la-Forêt en 1871. Et on dit de lui qu'il est le père de la magie moderne, puisqu'il a donné à la magie les lettres de noblesse. Il est le magicien qui va travailler dans les théâtres, qui va s'habiller en costume, veste queue de pin, papillon, chapeau haute forme. L'image classique que l'on a du magicien, on la doit à Jean-Eugène Robert Houdin, ce magicien blésois qu'on découvrira un peu plus tard dans la maison. Et donc dans cette salle, on retrace vraiment toute l'histoire de la magie. Donc ça commence par l'Antiquité, avec les prêtres qui présentaient des démonstrations, alors pas des spectacles de magie, mais qui se servaient de trucage pour impressionner le peuple. Donc on a notamment la démonstration d'un temple truqué. Et puis après, on passe au Moyen-Âge avec les batteleurs qui, eux, travaillent dans la rue. Il y a une table, le magicien a des gobelets, met une balle sous un gobelet, on mélange et on doit trouver où est cachée la balle. Et souvent, ces prétextes, ces tours de magie, à attirer la foule à lui pour ensuite vendre des produits soi-disant miracles. Alors bien évidemment, c'est assez compliqué d'être magicien au Moyen-Âge, parce que souvent on les accuse de sorcellerie. Et donc du coup, les magiciens vont changer de nom, vont se faire appeler des physiciens. Voilà, comme ça on oublie un peu le côté magie noire, ce qui pouvait faire penser à de la magie noire. Et donc les magiciens vont présenter plutôt des expériences scientifiques, des expériences de physique. Et Robert Houdin va s'inscrire dans cette lignée. Et donc après Robert Houdin, ça va vraiment être l'âge d'or de la magie, et c'est ce qu'on va découvrir dans la deuxième salle.
D'accord, donc 19e siècle.
Robert Houdin, 19e siècle, tout à fait. Voilà. Ça va si je vous fais des présentations
ouais,
comme ça pour
bien,
chaque...
C'est parfait. Tout à fait.
Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Pas de questions ?
C'est le seul musée dédié à la magie en France, mais pas seulement en France, en Europe.
Alors... Il y a d'autres musées dédiés à la magie, notamment à Paris, il y a le musée de la magie qui existe. La particularité de la Maison de la Magie, c'est qu'il y a un focus très particulier autour de Jean-Eugène Robert Houdin, voilà, puisque la Maison de la Magie est à Blois. Après, on a une très grande collection d'objets de magie, et après, c'est surtout la dimension de la Maison de la Magie qui fait que c'est unique en Europe, voilà, parce que c'est plus de 2000 m² d'exposition, une salle de spectacle de 300 places, avec vraiment des spectacles qui sont programmés toute l'année.
Du spectacle vivant.
Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on accueille, on a trois temps forts, avril à septembre, vacances de la Toussaint, vacances de Noël, où là on accueille vraiment des spectacles différents à chaque fois. Et puis après, c'est aussi un lieu d'animation, puisque dans la maison, au cours de votre visite, vous avez des magiciens qui vous présentent des tours de magie.
Okay.
On continue ?
Ouais, on vous suit.
Je suis désolé, tout n'est pas allumé, donc c'est un peu moche. Enfin ça, vous ne l'enregistrez pas.
C'est un petit côté féerique.
Ouais, enfin là vous avez rentré éclairage ménage, donc éclairage de service. Tout de même pas allumé, mais on va faire comme si.
Okay.
Ouais. Alors, je vous l'ai dit, après Jean-Eugène Robert Houdin, la magie entre enfin dans les théâtres et on va rentrer dans une période qu'on appelle l'âge d'or de la magie. Donc, c'est la période donc, des grands spectacles de magie. La magie s'installe dans les théâtres et les magiciens vont notamment présenter une forme de magie qu'on appelle la grande illusion. Donc des grands tours de magie. Alors on a choisi dans cette deuxième salle de traiter trois thèmes de magie, les numéros d'invincibilité, les apparitions, disparitions et les lévitations. On ne voulait pas faire focus juste sur un magicien en particulier, mais vraiment plutôt traiter des thèmes de magie. Et le premier thème que l'on évoque ici, c'est le célèbre tour de la femme coupée en deux, la femme sciée. Alors pourquoi une femme? Tout simplement parce que le premier magicien qui a présenté ce tour, c'est ainsi qu'il a appelé le numéro, et il a présenté le numéro avec son épouse. C'est un tour qui a plus de 100 ans, puisqu'il a été inventé en 1921 en Angleterre par un magicien anglais qui s'appelle Petey Selbit. Et donc il y avait une boîte sur scène. Alors cette boîte, c'est une caisse en bois, ça ressemble d'ailleurs davantage à un cercueil qu'à un appareil de magie. Sa partenaire était attachée à l'intérieur de la caisse. Selbit prenait une scie, passait la scie au travers de la boîte, on ne séparait pas les morceaux, on enlevait la scie et ensuite la personne ressortait intacte. La même année, il y a un magicien comme Goldin qui va s'inspirer de ce tour de magie et qui va avoir l'idée géniale de laisser la tête dépasser et les pieds dépasser. Donc là déjà, on se rapproche de l'image classique que l'on connaît généralement de ce tour, où effectivement on voit normalement les pieds d'un côté, la tête de l'autre. Et donc chaque magicien va avoir, au cours de ces 100 dernières années, envie de trouver sa version de ce tour de magie. Donc on a eu des versions bien sûr de plus en plus élaborées, et je pense notamment au célèbre illusionniste David Copperfield qui lui s'est carrément coupé en deux sur scène sans même être dans une boîte. C'est-à-dire qu'il a un sabre laser qui lui traverse le corps, un peu comme dans Star Wars. Il attrape ses hanches, il les décale sur le côté et il est coupé. Alors dans cette salle, ici à la Maison de la Magie, on a des systèmes de petites boîtes où justement les visiteurs peuvent découvrir l'évolution d'un tour de magie. Donc là, on a effectivement une photo de Selbit, on a la version de Goldin, donc ils ont des petits caches à soulever et on découvre comme ça au fur et à mesure différentes versions. On présente également des objets de collection, c'est-à-dire qu'ici on a l'appareil qui a servi à un magicien du nom de Mireldo, un magicien français qui lui travaillait en cirque, où là, voilà, on a une des versions de cet appareil de magie, où la partenaire entrait à l'intérieur, la scie est passée au travers et on séparait les morceaux. Et quand on pense numéro d'invincibilité, c'est pas seulement le tour de la femme sciée. En fait, c'est tous les numéros qu'on pourrait appeler un peu de torture. Par exemple, on pense également au célèbre tour de la caisse aux épées. Et là, on a une très belle version de la malle de Marbrus. Donc, dans les années 30, même chose, quelqu'un entre dans la boîte, on ferme la boîte. Et là, au lieu de couper en deux, on place des lames un peu partout dans tous les sens et on enfonce des épées. Voilà. Alors à chaque fois, dans chaque espace, les visiteurs retrouvent des objets de collection, puisqu'en fait, nous sommes la Maison de la Magie et Musée de France, donc on a vraiment des objets de collection uniques. On présente également des affiches de magie des plus grands magiciens, donc toujours sur le même thème. Par exemple, là, on a Bénévole qui présente le célèbre tour de l'homme décapité. On a des vidéos de magiciens plus contemporains qui vous sont présentées, et on a également des illusions d'optique, voilà, qui sont en lien avec l'histoire que l'on raconte. Par exemple, ici, on a une table où le visiteur est invité à entrer dans l'illusion et puis il peut se prendre en photo et il a l'illusion d'être décapité. Voilà, l'idée c'est toujours de travailler sur la même thématique. Okay. Si vous voulez faire des photos, je vous allumerai bien les espaces parce que tout est éteint pour l'instant, donc vous avez du mal à...
Oui, ouais. Vous avez combien de visiteurs à peu près par jour?
Alors en termes de visiteurs, alors à la journée c'est un peu difficile parce que certains jours on peut avoir 500 personnes et certains jours 1200 personnes. Ce qui est intéressant, c'est sur l'année. Sur l'année, on atteint à peu près les 125 000 personnes, sachant qu'on est ouvert 6 mois de l'année. Donc 125 000 spectateurs, ce qui est très bien pour la Maison de la Magie.
D'accord. Donc là, on est en saison de fermeture. Il n'y a pas d'accueil au public en novembre?
Non. Alors en novembre, on était ouvert pour les vacances de la Toussaint. Ouais. En fait, on est vraiment ouvert d'avril à septembre, ouais. Vacances de la Toussaint et vacances de Noël. D'accord. Alors ça ne veut pas dire que la Maison de la Magie n'existe pas entre. Par exemple, là, fin novembre, on accueille un festival de close-up. Donc c'est un premier festival de magie. Donc le close-up, c'est la magie de proximité. On va en parler dans quelques instants. Et donc là, on va vraiment faire 3 jours. On ouvre la Maison de la Magie sur réservation. Là, c'est pour les spectacles. D'accord. Voilà, c'est plus en mode un peu événementiel.
D'accord. Voilà. Combien de salariés à la Maison de la Magie?
Alors, on est mutualisé avec les services du château. Donc la Maison de la Magie dépend de la collectivité de la ville de Blois. Donc entre toute la partie administration, elle est côté château. Vraiment à proprement parler, à l'année à la Maison de la Magie, on est 1,5, c'est-à-dire moi et un régisseur technique. Après, comme on est mutualisé, ça monte facilement à 60 personnes à peu près. Voilà. Après, à la journée, la Maison de la Magie, c'est 12 personnes à peu près. Voilà. Entre les artistes, la sécurité, l'accueil, la billetterie, ce qu'on appelle les agents de médiation, l'équipe entretien. Voilà,
on est 12 personnes, vous pouvez ouvrir la Maison de la Magie au public aux 1200 accueillis dans la journée.
Oui, tout à fait. Oui. Après, on a toujours la possibilité de l'intérêt d'être mutualisé, d'avoir des renforts du côté du château qui peuvent intervenir ici.
Et les accessoires, on peut les nommer comme ça, qu'on voit ici, ils ont servi à de la magie ou ce sont des...
Non, c'est pas du tout des reproductions. Tous les objets que vous voyez, à part les affiches, où là, ce sont de plus en plus des reproductions, mais on a les originaux, mais c'est plus pour un souci de conservation. Après, les objets qui vous sont présentés, ce sont des objets qui ont véritablement servi aux magiciens.
La femme était plutôt petite.
effectivement, là, la boîte n'est pas très, très grande, mais elle a été faite sur mesure par rapport à l'assistante du magicien.
Ouais, c'est une taille d'enfant, quoi.
Bah, vous le voyez sur la photo, d'ailleurs, on perçoit que c'est pas une jeune fille.
Ah oui, elle a la tête qui sort.
Elle a la tête, oui. Il y a la tête et les pieds qui dépassent. Hein. Voilà.
Ok, tête donc, et pieds, effectivement.
Oui, ce qui explique que la boîte, elle est un peu plus petite. Mais il faut imaginer qu'il y a la tête à l'extérieur et les pieds de l'autre côté.
Il est arrivé qu'il y ait des accidents ?
Alors, avec ce numéro, il n'y a pas d'accident. Après, il y a des magiciens qui ont joué d'un point de vue communication sur le fait qu'il puisse y avoir des accidents. Ouais, je pense notamment, exactement, il y avait un magicien qui s'appelait Richard D. Jr. qui demandait à ce qu'il y ait une ambulance devant le théâtre.
Okay.
Voilà, et donc du coup, comme ça, on se disait, ah, il y a un risque. Après, il y a eu des fois des accidents, effectivement, sur certains numéros de magie, des magiciens qui se sont brûlés ou qui ont chuté. Ça, ça a existé. Ouais. Même décédés sur scène, c'est arrivé.
Ouais. Très bien.
On continue ?
Ouais, on continue.
Alors dans l'espace apparition-disparition, bien comme son nom l'indique, on évoque tout ce qui peut permettre de faire apparaître ou disparaître. Et on a notamment ici une chaise qui est appartenue au magicien, enfin, qui est une création du magicien Buatier de Coltard, où quelqu'un s'assoit sur la chaise, on couvre la personne avec un drap, et lorsqu'on arrache le drap violemment, la personne disparaît. Voilà. Donc disparition des chaises. Alors bien évidemment, on n'explique pas les tours de magie. Voilà, on garde les secrets pour nous. Bien évidemment, on partage quelques secrets aux visiteurs au grenier magique que l'on va découvrir dans quelques instants. Alors, un autre appareil de magie qui est intéressant en termes d'apparition-disparition, c'est celui-ci, parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle de la transformation. C'est un sarcophage, il est présenté, il est montré vide. On le ferme, on l'ouvre à nouveau et apparaît à l'intérieur une momie. On ferme et lorsqu'on ouvre encore une fois, apparaît une princesse égyptienne. Donc là, on a vraiment la disparition de la momie, l'apparition de la princesse, l'aspect transformation. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des effets magiques, ce que ressent le spectateur, qui reviennent souvent en magie. Alors, vous avez vu que ce soit la chaise ou le sarcophage, on est sur une thématique égyptienne. Donc, il faut imaginer que ce sont des appareils des années 30. Hein, donc, on vient de découvrir Toutankhamon. Et donc, les magiciens s'inspirent aussi des découvertes de l'époque. Donc, c'est le début des grands spectacles. Et donc, on va piocher un peu les inspirations dans les découvertes. Et à ce moment-là, l'Égypte, voilà, est à la mode. Et donc, du coup, les magiciens n'hésitent pas à s'inspirer de ces thématiques. Et donc dans le dernier espace ici, on évoque ce qu'on appelle les lévitations. Donc il existe plusieurs types de lévitations. Il y a d'abord ce qu'on appelle les suspensions, où là, la personne qui est en suspension, elle a toujours un point d'appui. On le voit là sur la fiche de Mystag, où la personne finalement reste en appui sur une chaise. Bon, bien évidemment, ça semble impossible de tenir comme ça. C'est pas sans évoquer un des tours de Jean-Eugène Robert-Houdin, pour revenir à l'artiste blésois, qu'on appelle... la suspension éthéréenne, où là, le fils de Robert Houdin était en suspension, en appui sur une canne. Voilà. Donc, il appelait la suspension éthéréenne, puisqu'en fait, il faisait respirer de l'éther à son fils. Et il expliquait que grâce à l'éther, donc son fils, bien évidemment, tombait dans les vapes, hein, s'endormait. Et donc, il expliquait que c'était grâce à l'éther que son fils allait devenir très léger et donc flotter. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand on évoquait l'aspect physicien, l'idée d'avoir donné un aspect un peu scientifique au spectacle. Là, Robert Houdin nous le prouve clairement en faisant une démonstration d'un produit qu'on vient de découvrir, l'éther. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'éther dans le flacon, hein, donc il ne va pas faire respirer ça à son fils, bien évidemment, mais toute sa présentation, sa mise en scène, elle avait un côté très, très scientifique. Donc c'est des tours de magie. Ce qui est amusant dans l'histoire de la magie, c'est que les tours souvent sont repris. Je vous ai parlé de la femme coupée en deux tout à l'heure, avec différentes versions. Et bien, c'est pareil, par exemple, pour ce numéro. Je vous ai parlé de Richard D. Jr. On a sa version ici, lui qui se faisait sur un balai. On a eu, dès les années 80, une autre version des Pendragon, où là, ils sont... Pendragon, donc c'est l'épée Excalibur, et elle est en suspension sur Excalibur. Okay. Voilà. Alors, quand on pense généralement lévitation, l'image que l'on a, le public, l'image qu'il peut avoir de la lévitation, généralement, c'est ça. C'est donc le magicien... la personne en lévitation devant lui, et il passe le cerceau pour montrer que la personne, il n'y a pas d'attache, qu'elle flotte complètement dans l'espace. Alors ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que cette photo, ce ne sont pas du tout des magiciens, ce sont des acteurs, parce qu'en fait c'est Tony Curtis, l'acteur Tony Curtis, et Janet Leigh dans le film Houdini. Voilà, un film qui est sorti dans les années 50-60. Et je vous parlerai d'Houdini dans quelques instants, qu'on confond souvent justement avec Jean-Eugène Robert Houdin. Et puis pour terminer, je reviens sur David Copperfield, qui lui a présenté ce qu'on appelle le flying, l'envol. Voilà, il volait sur scène. Voilà. Et donc toujours pareil, des espaces où les visiteurs peuvent se mettre en situation. Donc là, on a ce qu'on appelle une pièce à l'envers, où le visiteur se place à l'intérieur. Si vous observez la pièce, on s'aperçoit que les objets sont collés au plafond. On se prend en photo, et ensuite, quand on retourne la photo, on a l'impression d'être en suspension. Lévitation dans la salle. Voilà. Avec un trucage très simple en pivotant simplement la photo.
Ok, ce dispositif, moi je suis venu il y a 2-3 ans. Je crois qu'il n'y était pas, il y a 3 ans.
Non, cette salle-là, elle a été refaite il y a. C'est bien il y a 3 ans, effectivement, 2-3 ans. Donc elle a été complètement repensée. C'était une salle des illusions d'optique. Ouais. Mais on trouvait que les. C'était un peu une salle de jeu qui était comme ça un peu perdue au milieu du parcours de visite. Là, l'idée, c'est vraiment de retravailler, et on continue de travailler encore dessus, sur un vrai parcours de visite, voilà, pour vraiment mieux expliquer l'histoire de la magie. Et donc, chaque année, on essaye d'améliorer le parcours de visite permanent.
La Maison de la Magie a été créée en quelle année ?
La Maison de la Magie, elle a été créée elle a ouvert en 1998. Bien évidemment, les travaux ont commencé auparavant, mais ça a ouvert en 1998. Alors là, dans la continuité de la salle des grandes illusions, je vous ai parlé de l'âge d'or de la magie, des grands numéros de magie. Là, on est dans la continuité, puisqu'ici, on a des affiches d'un magicien américain qui s'appelle Carter. Donc là, on est début 20e siècle, 1920 à peu près. Et Carter lui présente des grands numéros de magie, donc des grandes illusions. Il faut imaginer que c'est vraiment des grandes compagnies, des grands spectacles qui se déplacent. Et, ils prennent le train, ils prennent le paquebot pour se déplacer. Vraiment, c'est le début des grandes tournées, un peu ce qu'on a connu aussi avec le cirque, voilà, des cirques, des spectacles itinérants. Et on a notamment là donc, le magicien Carter qui faisait disparaître un éléphant vivant sur scène. Donc voilà, d'où l'importance effectivement d'avoir et du personnel et du matériel, parce qu'il faut déjà transporter l'éléphant. Et donc là, on a parlé des apparitions-disparitions. Et bien là, Carter fait disparaître un éléphant sur scène. On le voit ici en bas à gauche qui tire en direction de l'éléphant et l'éléphant qui disparaît.
Les affiches comme ça, c'est des dons, c'est des...
Alors ça, c'est des acquisitions qui... Quand il y a eu le projet, l'idée de créer la Maison de la Magie à la fin des années 80, la ville de Blois, qui avait déjà des collections autour de Robert Houdin, manquait d'objets de collection de magie un peu plus généraliste. Et donc, au début des années 90, une acquisition a été faite de toutes ces affiches, tous ces objets de magie. Voilà, qui sont aujourd'hui complétés, voilà, puisque chaque année on essaye de faire l'acquisition de quelques affiches, quelques objets de magie.
Vous avez un budget
pour ça ? Ah, bien évidemment, oui.
Et c'est une volonté de la municipalité, du coup, la création de la Maison de la Magie à Blois. C'est porté par la municipalité à l'époque ?
Oui, c'est-à-dire que... Alors avant 98, quand le projet, ça a vraiment été porté par la collectivité, tout à fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un projet de la mairie de Blois de créer un lieu dédié à l'art magique.
Il y a un attrait touristique aussi.
C'est-à-dire qu'en plus, le choix qui a été fait, parce que la maison elle-même, elle existait, hein, la maison elle date de 1850, ouais. De positionner la maison de la magie face au château de Blois, ouais. Là, l'idée, c'est vraiment de que la place du château devienne vraiment un lieu touristique et culturel important à Blois. Voilà. Et aujourd'hui, on peut le dire que c'est le cas, puisque entre le nombre de visiteurs au château, le nombre de visiteurs à la maison de la magie, on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on est vraiment une force commune. L'idée, c'est vraiment de développer le tourisme à Blois. Okay. Aujourd'hui, c'est devenu même la maison de la magie un site incontournable. C'est-à-dire qu'au départ, on vient pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, souvent, c'était un complément de la visite du château. Aujourd'hui, il y a des visiteurs qui viennent pour la maison de la magie, découvrir les spectacles.
Et vous pouvez accueillir combien de personnes pour le spectacle?
Alors, la salle de spectacle, elle accueille 300 places. Elle a 300 places. Donc, c'est pour ça que je vous disais 1200 personnes tout à l'heure, puisque généralement, c'est des jeux où on est à 4 représentations par jour. Donc là, généralement, c'est que tout est complet. Sachant que, voilà, même si tout est complet, on peut quand même accueillir des visiteurs, bon, avec un prix inférieur, sans le spectacle. Ce qu'on trouve toujours un peu dommage, mais il y a des jours où on est un peu victime de notre succès. Ça dépend aussi pas mal de la météo. C'est-à-dire que les jours en saison touristique ou autre, s'il ne fait pas beau ou autre, il y a des gens qui viennent se réfugier au musée. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent quand même la réservation en ligne pour s'assurer d'avoir vraiment... vous pourrez rentrer à la Maison de la Magie, mais d'avoir une place pour le spectacle à l'heure que... On enchaîne ?
Ouais.
Okay. Alors là, Carter, je vous disais, donc disparition d'un éléphant, c'est aussi l'époque du spiritisme. Donc là, on retrouve Carter qui a une armoire spirit. C'est-à-dire que c'est une armoire qui est présentée vide. On place des instruments à l'intérieur, on ferme l'armoire, on invoque les esprits. Et la jeune femme qui est là, très pâle, c'est un fantôme. Elle vient hanter l'armoire et elle vient jouer des instruments. Voilà. Donc ça, c'est le genre de numéro. Et on retrouve d'ailleurs un peu tous les codes hein, du spiritisme. Le diable, bien... Alors le diable, je vais y revenir après, mais parce qu'il est un peu sur toutes les affiches ici. On a le squelette, on a les petits lutins, les diablotins, là, la sorcière, le chat noir, les corbeaux, les hiboux, l'espèce de gnome. Voilà, donc un peu tous les codes sorcellerie. Et cette affiche, elle est intéressante, puisqu'elle reprend tous les thèmes que l'on a vus dans la salle juste à côté. On retrouve la femme coupée en deux, on retrouve la lévitation, les apparitions, disparitions avec... un peu plus tiré par les cheveux, mais avec les colombes notamment ici, voilà, que les magiciens font apparaître. Donc on retrouve vraiment plein de tours de magie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce magicien asiatique. Alors Carter se présentait comme étant un magicien chinois. En fait, lui, c'est la même personne. Mais un peu comme pour l'Égypte tout à l'heure, en fait, les magiciens s'inspiraient de l'Asie. Et donc, il n'hésite pas, notamment pour la première affiche, à se grimer en magicien, en maharaja, pour faire disparaître un éléphant. Et bien là, il se grime en magicien asiatique pour faire apparaître des poissons rouges. À un point où certaines affiches, comme celle-ci, tout est à la mode asiatique. Voilà. Donc là, il se faisait étirer, les bras allongés, les jambes allongées, la tête descendait. Et bien toute l'affiche, tout le design de l'affiche est oriental.
Voilà. Et ça, c'est les années 30.
Années 20.
Et une question, on ne voit pas de lapin.
On ne voit pas de lapin.
Et on en parlait dans la voiture, chapeau, lapin, aujourd'hui c'est des symboles.
En fait, est-ce que vous avez déjà vu un magicien faire apparaître un lapin dans un chapeau?
Dans un écran, oui, mais pas en vrai.
Oui, pas en vrai. Parce que c'est l'image que l'on a du magicien. On a l'image du magicien avec le chapeau et le lapin. Les magiciens ont fait des tours de magie avec des animaux, ont fait des tours de magie avec des lapins. Mais finalement, le lapin dans le chapeau, il y a des magiciens qui l'ont fait parce qu'à force que ce soit rentré dans l'imaginaire collectif, mais ça ne fait pas partie finalement de nos classiques de la magie. Okay. Voilà. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a associé ce tour de magie au magicien. Et je suis magicien également, en plus d'être directeur de la Maison de la Magie, je n'ai jamais vu un magicien faire apparaître un lapin dans un chapeau. Je l'ai vu aussi pour des émissions de télé, notamment Paul Daniel, c'est un magicien anglais. On l'évoque dans la première salle, mais sinon, on n'a pas...
C'est une représentation.
C'est une représentation, voilà. Mais il y a des magiciens qui ont essayé, bien évidemment, qui l'ont reproduit, mais je pense que ça vient avant tout d'un imaginaire collectif.
Je souhaitais savoir, est-ce qu'il y a des animaux domestiques, donc, qui sont autorisés et d'autres interdits?
Alors, la magie avec les animaux, on voit encore aujourd'hui la magie avec notamment les colombes, les oiseaux, tout ça c'est autorisé. Et bien évidemment, après, on répond aux normes, aux lois, c'est-à-dire que là, sur là, notamment les animaux sauvages ou autres, on sait qu'un peu comme les cirques, bon, ça va s'arrêter. Après, c'est aussi un peu passé de mode, hein, faire apparaître un lion, un tigre, tout ça, un éléphant, voilà, tout ça, on le voit plus. Hein, donc, c'est aussi naturellement les magiciens aussi qui sont adaptés à l'ère du temps, que voilà, peut-être le magie avec les animaux, voilà, ça se fait plus vraiment. Donc, je sais que les oiseaux, alors après il y a des règlements, hein, c'est vraiment, il y a des magiciens qui travaillent avec des colombes ou autres, c'est suivi de près. Il faut savoir que les animaux ne souffrent pas, voilà. Donc, mais voilà, après les magiciens vont s'adapter, j'imagine, aux règlements, aux lois qui vont arriver. Okay. Je crois que pour le cirque c'est 2028, il me semble, mais ce sera à vérifier. Là j'ai un petit doute. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas directement concerné, puisque nous, à la Maison de la Magie, on n'a pas d'animaux dans les spectacles. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais on a eu dans le passé quelques colombes, mais je sais que les colombes sont encore autorisées. Alors, juste avant de continuer, effectivement, on a parlé du diable. Le diable est partout sur les affiches, puisqu'en fait, avec Robert Houdin, on pourrait dire qu'on a fait une distinction très nette entre la magie blanche et la magie noire. Donc, magie noire plutôt sorcellerie, c'est-à-dire, ouais. Voilà, le côté un peu obscur. Robert Houdin, lui, il en fait vraiment un art de spectacle. Et pour autant, après Robert Houdin, on retrouve le diable sur les affiches. Ce qui, là, pour le coup, nous rapproche davantage d'une magie sorcellerie, quelque part, vraiment pour simplifier. Hein. Et en fait, ça, c'est juste un élément de communication. Les magiciens aiment bien raconter, dire qu'ils ont passé un pacte avec le diable pour réussir leur tour de magie. Et on le voit, hein, souvent le diable accompagne le magicien pour réussir les numéros.
Oui, puis même dans le langage courant, on peut dire c'est diabolique quand il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on ne comprend pas.
C'est ça. Donc il y a le côté c'est diabolique, il a vendu son âme au diable, il a passé un pacte avec le diable pour réussir ses expériences. Ouais. Donc ça, c'est vrai que les magiciens aiment bien ça. En même temps, en présentant des tours comme la séance spirit, il y a un côté fantôme, démon, voilà. Est-ce que... Le mystère, finalement.
Ouais. Vous savez à peu près quelle date ils sont en fait, ces affiches ?
C'est 1920, à peu près, voilà. C'est assez difficile de dater précisément, mais il faut compter 1920, oui. Et puis, il y a un autre thème qui revient aussi, souvent, c'est quand même la mort.
Ouais.
Parce que si on prend ne serait-ce que le tour de la femme coupée en deux, même si la jeune femme dans la boîte, elle a le sourire, l'idée de départ... Elle est quand même sordide, puisque c'est bien de couper quelqu'un en deux et donc quelque part de tuer quelqu'un. Voilà.
Ça marche avec les belles-mères ou quoi?
Ça peut marcher. Mais on la recolle à la fin. Alors, dans les grands spectacles de magie, entre chaque grand numéro, souvent, il faut débarrasser le matériel, il faut amener l'autre matériel, et donc souvent, il y a un petit temps qui est un peu long entre deux. Donc, on ferme souvent ce qu'on appelle le rideau de patience, le rideau intermédiaire. Et là, le magicien vient au devant de la scène et présente un numéro plus petit, voilà, plus léger, parce que souvent, il n'a pas la place sur scène. Et il faut savoir que début du XXe siècle, il y a des magiciens qui vont se faire repérer par des numéros plutôt de manipulation. Et de là va apparaître une forme de magie que le public va vraiment apprécier, cette magie de manipulation, cette magie finalement plus petite, qu'on découvre de plus près. Et la forme de magie, ça va être le close-up. Le close-up, c'est vraiment quand vous êtes à une table tranquille et vous avez un magicien qui vient vous voir et qui vous présente, qui vous fait une démonstration de magie. C'est vraiment du petit comité. C'est à l'opposé de la grande illusion qui généralement se passe sur une grande scène. Vous êtes un peu loin, il y a des éclairages. Là, vous êtes en contact direct. Et une des figures légendaires pour nous, les magiciens, c'est Dave Vernon. C'est un magicien d'origine du Canada et qui a fait carrière aux États-Unis. Et Dave Vernon, il a commencé la magie très jeune, à l'âge de 6 ans, et il a commencé à se spécialiser, notamment dans la cartomagie, donc c'est la magie des cartes. Et donc, il va un peu, à sa manière, un peu comme l'a fait Robert Houdin quelques années auparavant, révolutionner l'art de la magie, et notamment en démonstration de magie. Voilà. Et lui, toute sa technique de magie vient un peu du milieu des tricheurs de cartes, puisque un bon tricheur de cartes serait très certainement un très bon magicien. Voilà. Après, il y en a un, c'est pour des fins malhonnêtes et pas l'autre. Voilà. Et donc le close-up, c'est une forme de magie que l'on affectionne particulièrement à la Maison de la Magie, puisqu'on a des magiciens qui se promènent dans la maison et qui présentent quelques numéros de close-up. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le close-up, c'est un spectacle à part entière. C'est-à-dire que le magicien est à une table et c'est le public qui vient s'asseoir à sa table. Et malheureusement, ce type de spectacle est assez difficile à présenter, puisque souvent, c'est des petites jauges, 20, 30 personnes. Et c'est pourquoi cette année, on a décidé de créer le premier festival de close-up, qui aura lieu donc fin novembre. Et on accueille cette année 3 artistes. Denise Baer, un magicien allemand, Laura London, une magicienne anglaise, et Jonathan Renou, un artiste français, qui vont présenter leur spectacle le temps d'un week-end. Donc comme c'est des petites jauges, on ira de 20 à 60 personnes max, eh bien, ils jouent plusieurs fois leur spectacle pour pouvoir en faire profiter un maximum.
Et ce sera personnes. Dans la salle du bas ?
Alors ce sera en partie dans la salle de spectacle. C'est-à-dire qu'on limite le nombre de places seulement à 60 places. Il y aura quand même une retransmission vidéo pour filmer la table, voilà, pour voir mieux les manipulations. Et sinon, ce sera au grenier magique pour l'un des artistes, puisqu'on sera sur une jauge de 20 places.
Justement, en parlant de projets type close-up comme ça, est-ce que vous faites régulièrement des sondages en fait pour savoir ce que les clients préfèrent ? Parce que ça peut évoluer peut-être chaque année. Et...
Alors ça, on est très attentif au retour des visiteurs. Pour nous, c'est le plus important. Donc on a déjà un livre d'or numérique à la sortie. Donc on a une tablette, voilà, avec un questionnaire. On a la main dessus, c'est-à-dire qu'en plus on peut le faire évoluer selon les. Selon, voilà, on se dit, bon, tiens, on aimerait savoir un peu plus sur la boutique, est-ce que ça va, sur le spectacle. Donc là, vraiment, comme ça, on peut travailler à partir de là. On a quelqu'un chez nous qui étudie les réseaux sociaux, le TripAdvisor, tous les retours, voilà, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et d'ailleurs, on apporte aussi des réponses, c'est-à-dire qu'on répond toute critique qui est faite sur les réseaux. on y répond.
C'est voilà. Très actif.
On essaye au maximum d'être le plus réactif possible. Et on répond aussi au positif, parce qu'avant, on avait tendance à répondre qu'au négatif, parce que ça arrive. Hein, mais nous, on essaye tout. Et puis, on essaye de voir bah, tout de suite comment on peut améliorer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé à la Maison de la Magie, à force d'écouter les visiteurs. Par exemple, cet espace ici qui a été refait cette année. Donc, on a une partie... Il y avait un des retours des visiteurs, qui, même si on met plus en plus de ludique, plus d'animation dans la maison, on a finalement un retour nous demandant d'en mettre davantage. Et bien, par exemple, ici, sur ce coin-là, ce mur-là, on vous raconte quelque chose autour du close-up, l'histoire de la magie. Et de ce côté-là, on a choisi de mettre quelque chose de plus ludique. Donc, on a recréé la table du magicien, où quand le visiteur vient s'installer, il peut se prendre en photo et il a l'illusion d'être avec...
Plein de monde,
ouais. C'est la même personne mais qui se multiplie. Au-dessus de moi, il y a une vidéo avec un tour de magie interactif où là, les gens se font avoir par le biais d'un tour interactif. On a une illusion d'optique ici. Voilà, et donc toujours l'idée, mais je ne souhaite pas mettre des illusions d'optique gratuites, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elles ont un lien. Là, c'est ce qu'on appelle la carte du tricheur où les visiteurs doivent deviner le nom qu'il y a sur la carte. Toujours en lien avec l'histoire que l'on raconte. Donc là, c'est le close-up, la carte aux magies. Donc, la vidéo, c'est un tour de carte. Là, c'est une carte. Voilà, la table du magicien, puisque le close-up, c'est ce qu'on appelle la magie de table. Donc voilà.
OK.
Mais effectivement, le retour visiteur est essentiel. Il faut... Même moi, quand je choisis les spectacles que l'on programme au théâtre, je ne choisis pas en fonction de mes goûts. J'essaie de me dire, bon, le visiteur, ses attentes, c'est quoi? Et après, on va chercher la bonne chose. Mais après, c'est évolutif. Hein, c'est-à-dire que parfois, on met des choses en place, ça marche un peu moins bien, et on est aussi réactif, donc on essaye de changer, d'adapter. Vous arrivez à lire la carte ou pas?
Non.
Voilà. Alors quand on est trop près... C'est le dos d'une carte, ça. Et c'est une carte marquée quelque part. Si vous éloignez un peu encore, reculez un peu, qu'est-ce que vous lisez maintenant?
Carte.
Alors, pas carte. Baissez-vous un petit peu, peut-être. Alors, c'est... Ça commence par 4. 4 de
carré.
4 de... 4 de carreau. Voilà. C'est une anamorphose. Ouais, plus on est prêt, moins on voit. Alors, je vous ai parlé de Dave Vernon, le magicien donc spécialiste du close-up en bas. Dave Vernon, donc spécialiste des tours de cartes. Et Dave Vernon, il est célèbre aussi pour avoir trompé un autre magicien qui s'appelle Harry Houdini. C'est-à-dire qu'à 7 reprises, il lui a fait le même tour de magie. C'est une carte. La carte est remise dans le jeu. Une passe magique et la carte remonte sur le dessus du paquet. Et il a bluffé Harry Houdini à 7 reprises avec ce tour de magie, en utilisant des techniques différentes, bien entendu. Et Houdini, justement, on va en parler là, parce que là, on est sur ce qu'on appelle la passerelle Houdini. Houdini que beaucoup de visiteurs, quand ils arrivent à la Maison de la Magie, confondent avec Jean-Eugène Robert Houdin, à cause du nom. Oui. Jean-Eugène Robert Houdin, je vous l'ai dit, il est né en 1805 à Blois. Il est mort en 1871 à Saint-Gervais-la-Forêt, de l'autre côté de la Loire. Et Houdini, lui, il est né 3 ans après la mort de Robert Houdin.
Ils
ne se sont pas connus. Il est né en Hongrie. Son vrai nom, c'est Eric Weiss. Eric Weiss, très jeune, il part s'installer aux États-Unis. Il va découvrir la magie grâce aux mémoires de Robert Houdin. Et donc, il va choisir un nom de scène. Et il va choisir Houdini en hommage à Robert Houdin. C'est vraiment la preuve que Robert Houdin était très important d'un point de vue magie à l'époque. Voilà, et que vraiment, il y avait une admiration complète autour de Robert Houdin. Qu'on a un peu oublié aujourd'hui, puisque Houdini, pour le coup, après, est plus connu. Alors aussi, parce que Houdini, il a été filmé, on a plus de photos, il a fait du cinéma.
Il est plus proche dans le temps.
Il est plus proche dans le temps, il est américain, donc grand renfort de communication, et donc vraiment, il a vraiment tout fait. Et puis, il a fait des numéros, si Robert Houdin est un magicien dit de salon, qui travaille dans un petit théâtre, Houdini, c'est un artiste plutôt je vais pas dire le mot foire, mais extérieur, du grand spectacle. Il a fait notamment disparaître un éléphant, Houdini. Et donc vraiment, il a marqué aussi par rapport à ses expériences. Et donc lui, il a présenté une forme de magie qu'on appelle l'escapologie, c'est vraiment l'art de l'évasion. Donc un numéro d'évasion, qu'est-ce que c'est? Ça se passe toujours de la même manière, on est attaché, soit enfermé dans une cuve, on peut être suspendu par les pieds avec une camisole de force, et le but du jeu, c'est de s'évader, de se libérer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Houdini. Pour vous dire à quel point Houdini était célèbre, c'est cette affiche qui est derrière vous, qu'on appelle l'affiche du président. Si vous regardez bien cette affiche, Houdini, il n'a même plus besoin de marquer qu'il est magicien. Il y a juste son prénom, son nom, et les gens le connaissent. Il n'y a même pas une carte, il n'y a pas un lapin, il n'y a rien. Et vraiment, on l'appelle l'affiche du président parce que typiquement, c'est l'affiche qu'il pourrait y avoir sur un billet de banque américain. Voilà. Ouais.
En 1902, il se produit à Paris.
En termes d'objets, je serais très embêté là pour vous le donner. Il faudrait que je regarde dans mes notes. Mais il y a beaucoup d'objets. Et tout n'est pas exposé, puisqu'en fait, on fait tourner les collections, on présente différemment. Donc on a une partie en réserve.
D'abord, je suis
soutenue, tu me l'as fait belle. Oui, c'est pour la radio.
Ah bon, alors.
Les rencontres d'Hélios. L'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommerie.
Les rencontres d'Hélios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'Hélios.